Médialogue. Bienvenue en Médialogie. Médialogue. Antoine Drou.
Influencer une élection présidentielle, c'est possible. Faire disparaître un article juste, mais gênant, c'est possible. Mobiliser des dizaines de milliers de personnes autour de la mort fictive d'un émeu, oui, c'est faisable. Monter des opérations de blanchiment d'informations via des opérations de corruption dans les médias, eh bien c'est arrivé. Oui, l'industrie de la désinformation est en plein essor, encore, comme viennent de le montrer les enquêtes de 30 médias internationaux via le projet Story Killer. Qui sera la prochaine cible de ces tueurs d'actualité? On va le voir ce matin. Tactique médiatique et coulisses de l'info, merci de nous faire une place jusqu'à 9h dans votre poste de radio.
Médialogue. Sur la première.
Laurent Cordonnier, bonjour.
Bonjour.
Laurent Cordonnier en duplex du studio RTS de Paris ce matin. Paris où vous êtes alors chercheur associé à Sorbonne Université ou au CNRS, mais où vous êtes surtout directeur de recherche à la Fondation Descartes pour l'information. Une fondation créée en 2019 dont l'objectif est, citation, de promouvoir l'exigence d'une information sincère pour une démocratie basée sur la confiance. Pourquoi une information sincère et pas simplement une information vérifiée ou utile ou de qualité, comme on l'entend si souvent?
Oui, c'est une bonne question. En réalité, le concept de sincérité de l'information, c'est un concept qui vient du milieu de l'économie, qui parle de sincérité des comptes d'une entreprise, et ça recouvre plus de facteurs que simplement la complétude de l'information. Ça correspond aussi évidemment à sa correspondance avec la réalité, à sa pertinence également. Donc c'est un concept plus couvrant qu'on trouvait intéressant d'essayer d'importer ou d'exporter plutôt en direction de l'information de type médiatique.
Quel est le degré d'indépendance de la Fondation Descartes?
Alors c'est une fondation qui est indépendante, qui est financée par des fonds privés et qui a en ligne de mire le bien commun, car l'information et ses pathologies, hein, que peuvent être la désinformation notamment, sont directement liées ou ont directement des impacts sur la vie démocratique.
Laurent Cordonnier, à la base, je vous avais invité sur RTS La Première ce matin pour parler de l'impact d'une année de guerre en Ukraine sur l'industrie de la désinformation. Et puis il y a eu les révélations en cascade ces derniers jours du collectif de médias Forbidden Stories. Il faut qu'on s'y arrête. D'abord pour parler de ce journaliste corrompu de la chaîne BFM TV. Il a accepté de relayer des informations que lui fournissait l'intermédiaire d'une société d'influence israélienne. Vous parlez de blanchiment d'informations comme on connaissait jusqu'à présent le blanchiment d'argent. Pourquoi cette expression « blanchiment d'information » ?
En réalité, c'est une méthode qui consiste à faire passer par un média, on va dire traditionnel, qui a pignon sur rue, qui est reconnu, une information fausse, fabriquée ou orientée. Elle peut être hyperpartisane, orientée dans un sens particulier, et la faire passer dans un média justement respectable, pour ensuite la diffuser via les réseaux sociaux, notamment en direction du public qu'elle vise à influencer. Et donc c'est un blanchiment parce qu'on passe par une institution qui est reconnue pour diffuser normalement de l'information plutôt fiable pour ensuite la diffuser par d'autres canaux.
Oui, c'est vrai qu'a priori, on pourrait se dire, bon, c'est pas si grave, une brève, hein, comme on dit dans le jargon journalistique, ça veut dire quelques dizaines de secondes d'une information. Ce journaliste présentait le journal de nuit entre minuit et 4h30 du matin. Quand même pas trop de monde qui regarde la télé à cette heure-là. On pourrait se dire, bon, c'est pas si grave, même si évidemment c'est grave de toute façon. Mais c'est problématique parce qu'après, une fois que c'est passé à l'antenne, même en pleine nuit, ça peut être reposté, rediffusé après via les réseaux sociaux.
Oui, c'est la particularité de cette officine, hein, de désinformation qui propose un service qu'on va dire hybride. Une fois que l'information est passée dans un média officiel, dans un média reconnu, elle peut être diffusée sur des plateformes en direction d'un public cible. Donc, peu importe en quelque sorte l'heure à laquelle cette information passe sur les ondes ou si elle passe en dernière page d'un journal, l'important c'est ensuite qu'elle puisse être découpée, retravaillée, mise en scène sur les réseaux sociaux et adresser un public particulier. Et l'officine de désinformation en question, située en Israël, avait comme caractéristique de disposer d'un réseau très dense de faux comptes sur les réseaux sociaux qui permettait de donner tout de suite de l'importance à cette information fausse et justement de la rendre virale en quelque sorte, mais pas n'importe comment, pas à l'égard de n'importe qui, mais à l'égard d'un public cible. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on sait que certaines populations seront plus ou moins sensibles à certains types de narratifs, de désinformation. Et donc, c'est eux qu'il s'agit de viser pour avoir un maximum d'efficacité. Et j'en profiterai juste aussi pour souligner à quel point il est bon marché plutôt de diffuser aujourd'hui une fausse information par un canal comme ça, parce que vos collègues journalistes qui ont participé à cette enquête parlent de quelque chose comme 20 000 euros pour l'entier de l'information, et plus dramatique encore, une enveloppe de 3 000 euros pour corrompre le journaliste. Donc apparemment, on peut diffuser de la fausse information pour relativement bon marché aujourd'hui.
Oui, c'est donc pour ça que vous parlez de blanchiment d'information, comme on parle de blanchiment d'argent, par exemple, la mafia qui utiliserait une pizzeria pour laver l'argent du crime et le rendre plus blanc que blanc. Reste que le journaliste de BFM TV en question a été suspendu, un audit interne a été lancé par la chaîne d'information. C'est ce qu'expliquait le directeur de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, à nos collègues de France Inter la semaine dernière. On l'écoute rapidement.
France Inter. Jusqu'à votre appel, on n'avait pas d'infos concernant ces brèves qui effectivement sont problématiques. Le journaliste mis en cause s'arrangeait pour demander ces images en dernière minute, une fois que le rédacteur en chef était pris sur une autre tranche et après qu'il ait validé l'ensemble de son journal. Il n'y a pas de doute que BFM est victime dans l'histoire. Quand l'un des nôtres court-circuite la chaîne hiérarchique, ça pose problème.
BFM est victime, les médias sont victimes, Laurent Cordonnier, ça veut dire qu'ils sont attaqués par les désinformateurs directement aujourd'hui.
Bien sûr, les médias sont une cible. C'est pas quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire. Hein, on le sait, ça fait bien longtemps dans l'histoire de la presse papier déjà à l'ancienne, on va dire, avant que Internet se développe, que des journalistes pouvaient être achetés, qu'ils pouvaient diffuser des informations trompeuses dans les colonnes de leur journal. Évidemment, on dépend souvent de la rédaction, on dépend des éditeurs. Donc c'est pas une opération nouvelle. Ce qui vraiment là est particulier, c'est que c'est cette méthode hybride qu'on a décrite, hein, médias traditionnels puis réseaux sociaux, qui est absolument nouvelle et qui rend la désinformation beaucoup plus efficace. Et puis aussi souligner que des privés aujourd'hui peuvent passer par ces services-là. Parce que cette méthode que l'on a décrite est utilisée par certains États pour diffuser de la désinformation à l'égard, dans d'autres pays essentiellement. C'est le cas de la Russie notamment, qui procède de la sorte, du moins qui a des usines à troll, hein, et des usines à fabrication de fausses informations à destination des pays occidentaux. Donc ça, c'était pas vraiment nouveau. Ce qui est nouveau, ou ce qu'on découvre là en quelque sorte, c'est que des privés peuvent eux-mêmes choisir de diffuser de la désinfo par ce canal-là, ou des États qui n'étaient pas dotés de ces technologies, parce que ça semble relativement simple à mettre en place, mais il faut quand même comprendre que les technologies impliquées peuvent être relativement complexes, notamment le fait d'être capable de développer un grand nombre de faux comptes sur les réseaux sociaux sans être détecté par ces derniers. Et ça a été possible dans le cas qui nous intéresse par le fait que les personnes qui travaillent dans cette officine, qui ont créé cette officine de désinformation, sont des anciens des services de renseignement et de l'armée israélienne. Donc ils disposaient de compétences techniques qu'ils ont recyclées en quelque sorte au service de la désinformation.
Oui, c'est intéressant parce que il y a non seulement les privés aussi qui peuvent agir, on va le voir tout de suite, et il n'y a pas que la France qui est dans le collimateur des désinformateurs, d'autres pays le sont, tous les pays, beaucoup de pays le sont, la Suisse aussi. Une enquête vient de montrer que des contenus en ligne de la RTS ou de 24 heures avaient aussi subi des caviardages sur Internet via une société de réputation en ligne baptisée Eliminalia, comme éliminer, on l'aura compris. Là, le principe, Laurent Cordonnier, c'est de faire disparaître des articles compromettants, juste. Alors cette fois-ci, l'info, elle est juste, mais elle est compromettante pour des privés. Et ça a déjà été publié, c'est déjà en ligne. Et les privés peuvent acheter l'effacement, c'est ça, de ces articles.
Oui, tout à fait. L'idée, c'était de faire disparaître du référencement d'Internet certains contenus. Alors évidemment, ce qui est sur Internet ne disparaît jamais d'Internet, on le sait. Par contre, ça peut devenir très difficile à retrouver. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire plonger ces contenus dans les profondeurs du net pour qu'une recherche ne permette plus de les retrouver facilement, de modifier. On peut aussi faire circuler des versions, caviardées ou modifiées du même article en le faisant passer pour un vrai article. Il y a eu d'autres méthodes de manipulation de l'information qui ont consisté récemment à créer des sites internet qui avaient l'allure de sites d'information réputés pour leur faire ensuite passer de faux articles. Donc là, l'idée est un peu différente. On prend une URL proche de celle du média visé, on copie la présentation de cette page et on dirige, notamment sur les réseaux sociaux, une partie du trafic des gens intéressés par les articles vers ces pages-là. Donc les médias traditionnels sont évidemment victimes aujourd'hui dans dans les démocraties libérales de toutes sortes d'attaques de ce type-là, que ce soit une nouvelle fois de la part d'États le plus souvent, parce qu'il faut des moyens encore une fois pour procéder à ce genre de méthode, mais aussi par des privés qui peuvent être plus ou moins liés à l'État.
Oui, c'est peut-être aussi l'occasion, en guise de clin d'œil, pour rire à leur jaune, vous me pardonnerez, mais ça me rappelle évidemment cette blague, où quel est le meilleur endroit pour planquer un cadavre? Je ne sais pas si vous connaissez la réponse, Laurent Cordonnier.
Ah, non, celle-là je ne la connais pas malheureusement.
Ben, c'est la page numéro 2 des résultats de recherche Google.
Bah, oui, absolument. On sait que la majorité des utilisateurs de Google, voilà, dont je fais partie d'ailleurs, s'arrêtent à la première page et vont très rarement voir la seconde, et on parle pas des suivantes évidemment.
Voilà, je le fais avec peut-être un peu d'ironie également ce matin, vous me pardonnerez, hein. Laurent Cordonnier, vous êtes directeur de recherche à la Fondation Descartes, mais vous êtes aussi chercheur associé à Sorbonne Université et au CNRS. Vous avez encore fait partie de la commission Bremer, commission qui a conseillé le président de la République française sur cette thématique de la désinformation. Vous travaillez beaucoup pour que votre Valais natal ne vous manque pas trop là-bas à Paris, vous l'enfant de Cran-Montana, l'ex-étudiant de l'Université de Lausanne.
Absolument. Bon, j'ai la chance parfois de retourner à Cran-Montana. J'y étais récemment pour donner une conférence sur ces questions-là, sur les questions de désinformation, en l'occurrence les désinformations en santé, parce que la Suisse n'est évidemment pas épargnée par ces campagnes de désinformation. Évidemment que les pays les plus visés sont les pays qui ont une influence internationale de poids, qui ont éventuellement un poids militaire international. Mais la Suisse, de par son rôle de médiateur, est aussi visé par des campagnes de désinformation.
Oui, vous dites d'ailleurs que la Suisse compte proportionnellement beaucoup plus d'influenceurs de la désinformation Covid que la France. Comment vous l'expliquez ?
Alors, je l'explique mal, mais c'est en tout cas un constat tout à fait curieux et marquant. En effet, quand on s'intéresse aux grandes figures du complotisme et de la désinformation durant le Covid, on va se concentrer sur les francophones en l'occurrence, on constate une surreprésentation de personnes vivant en Suisse, de Suisse en fait, dans le top 50 des plus influents d'entre eux. C'est un peu curieux, je sais pas très bien comment l'expliquer. Une partie de l'explication se cache peut-être dans le fait que la Suisse est un pays dans lequel les médecines alternatives ont un grand succès, on le sait, des études l'ont montré, et certaines dérives de ces médecines alternatives ont pu pousser notamment à refuser l'idée du vaccin contre le Covid, parce qu'il serait responsable de toutes sortes de maux selon les conceptions de ces médecines alternatives. Certaines d'entre elles nient même l'existence des virus, qui serait simplement l'expression d'un symptôme énergétique ou que sais-je. Donc peut-être que ce bassin de médecine alternative très très important en Suisse a pu constituer un terreau de développement de ce genre d'idées un peu farfelues, notamment sur le Covid.
C'est d'ailleurs en Suisse, votre pays, Laurent Cordonnier, que vous avez été le plus chahuté lors de conférences, c'est ça ?
Oui, c'est vrai. Un de mes sujets d'études est le complotisme. Et il m'arrive régulièrement de donner des conférences publiques sur cette question-là, parce que c'est une question qui interroge une partie de la population. Et c'est à Genève, en effet, que j'ai été le plus chahuté lors de conférences par une petite association complotiste qui était présente et qui a essayé de nuire à la bonne tenue de la conférence.
Alors, on parle d'Ukraine ce matin, on parle de Covid. Enfin, non, on n'a pas beaucoup parlé d'Ukraine, hein, jusqu'à présent. Ça aussi, ça a eu un impact dans le suivi. C'est assez intéressant de constater, Laurent Cordonnier, les gens qui désinformaient sur le Covid, aujourd'hui désinforment pas mal sur l'Ukraine. Il y a quelques jours, les Freiheitsstrichler, les sonneurs de cloche de la liberté, les Suisses donc, sont même allés à Munich pour manifester contre l'OTAN et pour Vladimir Poutine. C'est ce que nous racontait Blick il y a deux jours. Or, ce groupement s'était positionné pendant la pandémie contre les autorités et les mesures Covid, c'est un élément individuel, ou est-ce que vous le constatez, ça, ce glissement? On était contre les mesures Covid, on est aujourd'hui pro-russe, pour la Russie, pour Poutine.
Alors c'est un mouvement que tous les chercheurs sur ce domaine avaient observé, mais difficilement quantifié. Et là, on a la chance d'avoir un collègue du CNRS, David Chavalarias, qui a dirigé une étude sur le climato-scepticisme francophone sur Twitter, et qui montre en fait, cette fois de manière quantifiée, que la majorité des comptes qui partagent des contenus climato-sceptiques sur ce réseau social ont aussi partagé des contenus anti-vax durant le Covid, et ils sont même 60% à avoir relayé de la propagande politique pro-russe sur la guerre en Ukraine. Donc on constate en effet un regroupement de thématiques différentes autour d'un même nombre ou d'un même type d'individus sur les réseaux sociaux qui partagent la désinformation, quel que soit le sujet en quelque sorte.
Donc Covid, Ukraine et maintenant climat, c'est ça, je comprends bien.
Absolument, absolument. Et évidemment, on peut essayer de voir qu'est-ce qui motive ces personnes à partager des informations. Ils sont souvent pas à l'origine eux-mêmes des désinformations, mais les partagent, les relais, les commentent sur les réseaux sociaux. Ce qui peut soutenir le fait de diffuser ces désinformations sur ces différents sujets, ça peut être une même ligne idéologique sous-jacente, souvent une ligne très à droite politiquement, axée sur des valeurs très conservatives, voire traditionnalistes d'un point de vue religieuses, mais aussi de majoritairement de personnes qui se sentent hors du jeu démocratique, qui ne se sentent proches d'aucun parti politique. Et d'ailleurs, c'est ce que l'étude de David Chavalarias et ses collègues permet de montrer, c'est que les personnes qui diffusent ce type de contenu, en général, ne sont pas proches de partis traditionnels, de partis politiques traditionnels. Ce sont un peu des hors-système, hors-jeu, qui deviennent en quelque sorte anti-tout, qui ne font confiance à aucun type d'information mainstream, on va dire, et qui vont s'inventer un espèce de monde parallèle dans lequel la réalité est alternative.
Et au milieu de ce monde, il y a aujourd'hui le climat. D'ailleurs, vous avez présenté, Laurent Cordonnier, au début de l'année, votre étude de la Fondation Descartes intitulée « Information et engagement climatique ». Elle montre que 7% des Français ne croient pas ou peu au dérèglement climatique. J'arrive pas à me rendre compte, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, 7% de la population française qui croit pas ou peu au dérèglement climatique?
Alors, dans l'absolu, c'est relativement peu quand même. On peut se rassurer sur le fait, si on veut voir le verre à moitié plein, se rassurer sur le fait, en effet, que la population aujourd'hui en France, mais en Suisse également, est très largement, très majoritairement acquise à l'existence de cette menace pour l'humanité. Et on peut aussi, dans une certaine mesure, être un peu plus réticent ou voir le verre à moitié vide en réalisant qu'il existe encore aujourd'hui en France 30% de la population qui considère que le dérèglement climatique est autant causé par l'activité humaine que par des causes naturelles, tout autant. Et ça, c'est évidemment pas du tout en accord avec ce que nous dit aujourd'hui le GIEC, hein, ce que nous disent les scientifiques du climat, qui considèrent que l'intégralité du dérèglement climatique que nous sommes en train de vivre est d'origine humaine, anthropique, comme on dit, et que l'activité solaire ou d'autres phénomènes naturels ne jouent aucun rôle dans ce dérèglement climatique actuel.
Pourtant, Laurent Cordonnier, ça fait bientôt 20 minutes qu'on parle ensemble, vous continuez de chérir la liberté d'expression, malgré tout ça. Vous vous dites qu'il faut continuer de laisser les gens, en gros, dire ce qu'ils veulent, même en période de crise. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas plus interdire, plus réglementer pour tenter de contrer la désinformation?
Oui, en effet, ça c'est vraiment une question très délicate. Que faire pour essayer de lutter contre cette désinformation? On sait que la désinformation a des conséquences graves sur la vie démocratique. Hein. Elle conduit notamment à la polarisation affective des populations, c'est-à-dire que on se met à détester de plus en plus ce qu'on considère être le camp adverse. Ça fracture nos sociétés. Ça fait prendre des risques de santé publique, par exemple l'hésitation ou le refus vaccinal durant le Covid, etc., etc. Donc on en connaît bien les aspects négatifs. Et la tentation peut être de se dire on va durcir les lois sur la liberté d'expression, on va interdire, censurer. Le problème, c'est que pour défendre la démocratie, il faudrait bien prendre garde de ne pas l'abîmer en même temps. Et la liberté d'expression, c'est une composante absolument essentielle de la liberté d'expression. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver des moyens de lutter contre la désinformation sans abîmer la liberté d'expression.
Une, deux pistes, on fait quoi?
Alors, il y a énormément de pistes. En effet, comme vous l'avez rappelé, j'ai fait partie d'une commission qui a rendu un rapport au président de la République qui propose justement un certain nombre de solutions pour lutter contre la désinformation et ses conséquences. Une piste peut être non pas de censurer ou d'encourager les plateformes de réseaux sociaux à censurer certains contenus, mais simplement à les rendre moins visibles. Parce qu'aujourd'hui, les algorithmes des réseaux sociaux favorisent les contenus les plus polarisants, les plus engagés, engageants émotionnellement, ceux qui vont susciter de l'indignation, etc. Et on sait que ce sont là des caractéristiques souvent des fake news, comme on le dit. Et donc, modifier ces algorithmes pour pas donner une visibilité artificielle à des désinformations, ça serait déjà une chose qui ne remet pas en question la liberté des gens de s'exprimer. Simplement, on va pas leur faire une publicité indue en propulsant leur compte. Et l'autre grande piste dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est celle du renforcement de l'esprit critique des populations. On sait, enfin, le meilleur moyen, peut-être le moins liberticide pour lutter contre la désinformation, c'est de rendre les gens plus résilients face à cette désinformation. Et l'esprit critique, c'est la capacité à comprendre la manière dont notre propre esprit fonctionne et dans quel type, parfois, de pièges il nous emmène. La plupart des fausses informations en circulation sur les réseaux sociaux, notamment, mais pas seulement, rencontre une partie de son succès en s'appuyant sur certains biais cognitifs, notamment le biais de confirmation, par exemple, qui nous pousse tous à favoriser et à rechercher davantage des informations qui vont dans le sens de nos croyances préalables, plutôt que de confronter nos idées réellement à une diversité d'opinions en essayant d'en peser la qualité. Évidemment, l'esprit critique, c'est aussi la capacité ou la compréhension du fait que nous sommes dans une situation, en tant qu'être humain, de dépendance épistémique. Tout ce que je sais sur le monde, ou quasiment tout ce que je sais, me provient non pas de mes propres sens et de mes propres expériences, mais du témoignage d'autrui. Si je sais qu'il y a aujourd'hui une guerre en Ukraine, c'est parce que des journalistes me l'ont rapporté. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être conscient de cette dépendance épistémique et dès lors d'être particulièrement attentif à son attribution de confiance. À qui vais-je donner ma confiance, accorder ma confiance et sur quelle base, sur quels critères rationnels si possible.
Laurent Cordonnier, merci. Merci beaucoup. En duplex de Paris, de nos studios RTS à Paris ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à la Fondation Descartes pour l'information. À une prochaine, peut-être la prochaine fois que vous revenez au pays pour dire bonjour.
Avec plaisir.
Bonne journée en tout cas. Au revoir.
À vous aussi. Au revoir.